et vous écoutez France Culture. Ceux qui sont à la recherche de l'horreur hantent les pays étrangers et lointains. Mais le véritable amateur de terreur, celui qui trouve la justification de son existence dans la recherche d'un frisson nouveau, insurpassable, ne connaît rien de mieux que les fermes isolées dans les bois de la Nouvelle-Angleterre. Howard Phillips Lovecraft. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui s'aventurera ce soir parmi cimetières oubliés, masures gothiques et bois profonds de la Nouvelle-Angleterre à la suite de son citoyen d'honneur, Howard Phillips Lovecraft, dont la biographie Monde et Monstre de S.T. Joshi est parue aux éditions ActuSF, un chantier éditorial peu commun dont le maître d'œuvre Christophe Thill étant ce samedi notre invité. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre consacré ce soir quasi exclusivement à H.P. Lovecraft, un auteur dont on n'a pas tant parlé que ça dans cette émission, et l'occasion en est trop rêvée pour ne pas rattraper notre retard. C'est donc la parution de cette biographie. Bonsoir Christophe Thill.
Bonsoir.
Christophe Thill, Lovecraftien, qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a toujours des mots un peu tristes. Numéro 1, Lovecraftien en chef, Lovecraftolâtre.
Non, rien de tout ça. Lovecraftologue, d'abord amateur, de moins en moins amateur avec le temps.
Voilà. De plus en plus professionnalisé et par ailleurs directeur, co-directeur des éditions Malpertuis, une maison d'édition entièrement vouée ou très largement au fantastique.
Complètement.
Dans lequel vous avez publié, on peut citer quelques titres.
Eh bien, on a été très fier d'être les premiers à publier en France Le Roi en jaune de Robert Chambers.
Ah oui, je me souviens d'une édition en marabout, mais qui ne devait pas être aussi rigoureuse et solide que la vôtre.
Voilà, c'est le texte qui a été ensuite republié au livre de poche, mais l'édition critique est bien chez nous. Et puis on a fait un certain nombre d'anthologies. On a une anthologie annuelle qui s'appelle Malpertuis, qui va connaître bientôt son 10e numéro sous la houlette de mon camarade Thomas Bauduret.
Que l'on salue.
Et dont nous reparlerons. Dans laquelle on fait un petit tour d'horizon du fantastique tel qu'il existe aujourd'hui.
C'est l'année fantastique,
comme c'est l'année du fantastique.
L'année du rugby, voilà. Ou l'année de la Formule 1. C'est une volonté de faire le point sur les événements de l'année
C'est une volonté de donner la parole en majorité à des jeunes auteurs et autrices, à des nouvelles voix du fantastique, et puis aussi à des voix un petit peu plus grandes, un peu mieux établies, mais de manière à donner ce que mon camarade Thomas appelle un buffet garni.
Très bien. Ben un jour, Mauvais genre s'invitera au buffet garni de Malpertuis.
Avec grand plaisir.
On vous consacrera une émission largement méritée. Bonsoir, Paco Mthielmon.
Bonsoir, François.
Paco Mthielmon et Lovecraft, c'est une histoire ancienne. Oui, j'imagine.
Oui, et complexe aussi, parce que...
Complexe, c'est-à-dire
bien sûr qu'il y a, j'ai un amour de Lovecraft d'adolescence, de découverte. Parmi les premières lectures qu'on peut faire, surtout dans la bibliothèque de mon père. Mon père était un grand, grand, grand fan de Lovecraft. Et après, il y a eu plusieurs moments de redécouverte, et dont une redécouverte plus récente, là, dont on va reparler pendant l'émission, j'imagine.
Ben oui, absolument. Et puis tout cela étant lié, bien sûr, à d'autres grands intercesseurs, puisque Lovecraft, en France, c'est surtout une affaire d'intercession.
Je suis d'accord. Et on en profite pour faire un hommage à Monsieur Truchot.
Voilà, on salue, parce qu'on lui doit beaucoup, nous autres Lovecraftiens, effectivement. En tout cas, ce soir, l'invité de Mauvais genre, c'est le grand intercesseur d'aujourd'hui, c'est Christophe Thill. Bonsoir Céline Duchesnay.
Bonsoir François.
Est-ce qu'elle est une lectrice de Lovecraft?
Eh bien non.
Non.
Non. Mais je peux quand même me
ça
vanter
en fait
d'une chose. C'est d'abord, je vais écouter l'émission. Et puis c'est surtout que j'ai plongé dans l'univers de Lovecraft un petit peu grâce à vous François quand j'ai écouté cette première émission que vous avez faite pour France Culture, qui date je sais plus de 83 ou 89,
83,
je suis pas
absolument.
Très bonne en date, où vous aviez consacré donc une heure et demie d'antenne à Lovecraft et à une vision très angélique. Je ne sais pas si on peut dire ça.
C'était ma première émission de radio.
C'était une grande incantation.
De tous les temps. Et j'avais voulu plonger l'auditeur dans une véritable terreur lovecraftienne. Y suis-je arrivé? Je ne sais pas.
Mais
en tout cas,
je n'ai rien lu, moi.
Cette émission a été diffusée un soir de 11 novembre entre une sonnerie aux morts et un concerto pour piano de Prokofiev. C'était tout un climat.
Donc c'est, pour toi, c'est une passion de jeunesse aussi.
Ah bah moi, j'ai commencé à 10 ans. Avec les livres j'ai lus, illustrés par Tibor Cernus, que j'allais lire avec des amis dans les combles d'une vieille maison là-bas en Normandie. C'est un autre sujet d'émission. En attendant ce soir, ouvrons notre encyclopédie. Alors, c'est notre grand grimoire à nous, vous voyez, Christophe Thiel. C'est notre Necronomicon. Ouvrons l'encyclopédie. Et à quelle lettre et avec qui?
Eh bien, ce soir, je vais vous présenter Michael de Poissy.
J'étais un petit peu fatigué de faire un petit peu tout et n'importe quoi, de passer d'une tête d'un lien à une clé de 13 dans la même après-midi. Et j'ai commencé à réfléchir finalement à mon métier, à ce que je devais en faire pour mon avenir, pour plus justement m'ennuyer. Et comme ma passion à l'époque, c'était un petit peu mes lectures, l'histoire de France, tout ça, j'ai commencé à tatouer des portraits de philosophes, à m'intéresser, donc je suis allé au Louvre prendre des statues en photo, donc j'étais un petit peu spécialisé en France dans le gris couleur et faire des statues, voilà, je faisais des statues. Et il s'est trouvé qu'à force de faire du gris, j'ai vu la vie en gris, hein, j'ai commencé à broyer du noir, et j'ai commencé à me dire, mettre peut-être un petit peu de couleur dans ta vie et dans tes tatouages, et j'ai commencé à mettre des petits vitraux derrière mes tatouages, un petit vitrail par-ci par-là. Et puis un jour j'ai dit, mais oui, en fait il y a quelque chose là, vitrail ça fonctionne, c'est des gros traits avec des couleurs posées comme ça, et, voilà, ça fonctionne, ça va bien vieillir, ça. Et donc j'ai commencé à ne faire que du vitrail à partir de ce moment-là. Et j'ai appelé trois clients que je connaissais, qui ont fidèles, et je leur ai proposé de leur faire un dos à ces trois personnes, donc de faire un triptyque qui a duré un an et demi à peu près de travail sur trois personnes. Donc, quand même, ça représente, je pense, peut-être 200 heures de travail. Commencé la même semaine, fini la même semaine, et j'ai balancé ça sur les réseaux sociaux. Et puis là, j'ai été connu à partir de ce jour-là sur la scène internationale. Et c'est à partir de là que réellement les gens ont commencé à se déplacer chez moi pour du vitrail. Avec certaines personnes, comme des Japonais, qui n'ont pas de vitraux chez eux, c'est pas partie de leur culture. Donc c'est à partir de là que, on va dire, je suis devenu Michael de Poissy, Monsieur de Poissy.
L'histoire du vitrail dans le tatouage a donc officiellement commencé il y a une dizaine d'années, quand trois dos se sont ainsi retrouvés tatoués et ornés de l'archange Saint-Michel pour l'un, de Jeanne d'Arc pour l'autre et du Christ pour le dernier. Le tout dans les règles de l'art du tatouage et du vitrail. Une combinaison dans laquelle Michael de Poissy excelle, il est d'ailleurs le seul à proposer ce style novateur, auquel il peut aussi ajouter les codes japonais du tatouage traditionnel. Il faut dire que Michael de Poissy a l'esprit en éveil, puisant aussi bien son inspiration dans sa grande collection de documents et d'objets liés à l'histoire du tatouage, que dans son exploration de l'histoire de l'art médiéval.
J'ai des souvenirs, c'est plutôt des souvenirs avec des clients finalement, parce que je ne fais plus que du vitrail, et j'ai un tatouage sur deux, c'est un dos, je fais que des grosses pièces, voire le corps entier. J'ai des clients que je vois sur 5 ans, 6 ans, avec 100, 200 heures de travail, si c'est vraiment tout le corps. Là en ce moment, je suis en train de refaire toute la bataille de Mont-Saint-Pevel, de Philippe le Bel, sur le corps de quelqu'un qui a 25 ans, c'est quand même incroyable. Ah, il ne connaissait pas la bataille de Mont-Saint-Pevel, il n'est pas venu me voir pour me dire « Bonjour Michael, je voudrais la bataille de Mont-Saint-Pevel », mais il voulait quelque chose qui soit du début du XIVe siècle. Et il s'était intéressé un petit peu à... Je lui avais dit de lire Les Rois Maudits, de lire un petit peu tout ça justement pour... Et il s'était intéressé justement à la vie de Philippe le Bel, de toute cette époque-là, et je lui avais parlé de certaines batailles, donc Bouvines, Mont-Saint-Pevel, tout ça, et on était parti sur cette bataille-là, et donc il a une représentation de la bataille sur tout le devant du corps, donc ça part du cou jusqu'à la pointe des pieds, avec, je sais pas, il y a peut-être une centaine de chevaliers qui se font face, et là, derrière, on va commencer à attaquer le dos maintenant, donc c'est des travaux au long cours, des projets qui se font sur plusieurs années, et c'est plus ça qui va rester, je pense, que le tatouage en lui-même, c'est plus la personne, la démarche, les discussions que je peux avoir avec certains clients qui sont des conservateurs de patrimoine, des historiens, des gens passionnés, qui vont m'apprendre des choses aussi, qui vont m'apprendre des codes de couleurs, qui vont m'apprendre des codes vestimentaires, des codes de coiffure, des codes. C'est un travail de recherche, c'est très intéressant, parce que quand j'ai des puristes, c'est là où ça devient vraiment intéressant, parce qu'ils ne veulent pas qu'une coupe de cheveux du 13e soit une coupe de cheveux du 16e, c'est pas possible. Un petit peu comme les représentations du 17e en peinture avec le Christ et les saints, enfin, ou les Romains habillés comme des gens du 17e siècle. C'était, je vais pas faire une erreur comme ça sur une personne qui est une puriste, c'est impossible. Et même les couleurs, voilà, là où Michel Pastoureau intervient et qu'on commence à s'intéresser réellement aux couleurs, à la création des couleurs, à l'époque, la mode, tout simplement, la mode du médiéval. Et donc j'ai beaucoup de livres, justement, on va dire que c'est un petit peu comme le 20e siècle, voilà, tous les 10 ans, 15 ans, il y a une mode qui arrivait, mais à l'époque c'était pareil. Hein. Quand une nouvelle reine arrivait dans la cour, une nouvelle reine de Hongrie, d'Espagne ou d'Allemagne ou d'Angleterre, elle arrivait avec sa mode. Et donc tous les gens de la cour suivaient sa mode et voilà, les modes changeaient. Il y a des règles à respecter, je peux pas mettre tel cordage, je peux pas mettre telle capuche, je peux pas mettre tel... quand même que... Je fais pas n'importe quoi sur certains clients. Voilà, il y en a certains qui n'y connaissent rien ou je peux un petit peu partir en freestyle, mais non, sinon il y en a quand même qui me guide beaucoup et ça m'intéresse du coup parce que j'apprends beaucoup auprès de mes clients finalement.
Michael de Poissy, artiste tatoueur spécialisé dans l'art du vitrail médiéval, est à retrouver à Poissy ou sur les réseaux sociaux. Il est possible aussi de découvrir l'une de ses grandes peintures créées spécialement pour l'exposition collective Hey Modern Art et Pop Culture 4, une peinture qui représente ses maîtres tatoueurs, chacun portant sur la tête une auréole tel un saint des temps modernes. La 4e édition de l'exposition Hey se tient à la Halle Saint-Pierre à Paris en ce moment et jusqu'au 2 août 2019, l'occasion de retrouver aussi des artistes aimés comme Séverine Gambier ou Yannick Umfricht, qui tous les deux ont fait l'objet d'une page de l'Encyclopédie des pratiques des mauvais genres. À ne pas rater d'ailleurs les prochaines performances de Yannick Umfricht, qui revisite la pièce sombre de sa maison d'enfance où il venait régulièrement s'enfermer pour tester le pouvoir de ses frayeurs. Toutes les dates sont à retrouver sur le site internet de la Halle Saint-Pierre.
Merci Céline pour cette entrée, donc Michael de Poissy, de notre encyclopédie pratique des mauvais genres. Est-ce que le tatouage est une pratique courante chez Lovecraftiens français et autres?
Alors, chez les Lovecraftiens, je peux pas trop dire. À mon avis, ouais, il y en a un certain nombre qui aiment bien se faire tatouer des tentacules et autre chose Cthulhu, sur le corps.
Sur le dos,
mais enfin, c'est, du point de vue de Lovecraft lui-même, c'est quand même pas très orthodoxe, quoi.
Oui, Lovecraft lui-même était totalement étranger à ce type de pratique.
Oui, 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 c'était pas son truc. Hein.
Très bien. Ben, nous
allons... Providence avec des tatouages.
Voilà. Dernier mot avec vous, Céline. Vos nombreux fans peuvent vous retrouver la semaine prochaine.
Oui, mercredi, au Musée de la Chasse et de la Nature, où nous proposons avec Laurent Polleret une nouvelle déambulation
avec
sonore.
Avec Laurent Polleret.
Oui, nous avons été invités par Anne de Malray, qui est la rédactrice en chef de la revue Billboard, qui est consacrée cette
très bonne revue
au monde sonore, et donc notamment aux animaux. Et donc, nous proposons une version un peu plus, est-ce qu'on pourrait dire, mauvais genre. C'est tout à fait possible, autour des voix animales, avec un certain nombre d'artistes qui font partie de l'encyclopédie pratique des mauvais genres et que l'on retrouvera en voix dans les salles du musée, et avec aussi une cérémonie qui sera donnée à un moment donné, une cérémonie chamane à base de chaussettes de footballeur, mais je ne veux pas en dire
non plus.
En tout cas,
vraiment...
François, vous serez là aussi.
Bah
peut-être
oui,
qu'à
bah
nouveau,
oui.
Comme pour la soirée sorcière, un oiseau va se poser sur votre épaule.
Oui, ça va être le grand mystère ou autre chose.
Allez, ça...
une maigre bête de la nuit, par exemple.
Est-ce que l'homme femme cheval sera là?
Non, ce sera pour une prochaine occasion, mais ceux qui seront là seront de toute beauté. Et puis, à noter que l'événement est gratuit.
Alors,
donc, c'est à partir de 19h30 au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris. Et
venez nombreux et venez armer l'endroit est désert, comme disait Tristan Bernard. En attendant, eh bien, nous allons, nous, non pas aller au Musée de la Chasse, mais nous enfoncer dans les profondeurs opaques et le mystère hanté de la Nouvelle-Angleterre à la suite de Howard Phillips Lovecraft. Il a commencé à lire son affreux récit à minuit et a continué, appuyant particulièrement certains mots à mesure qu'il avançait, ses expressions faciales changeant alors qu'il était plus concentré sur ce qu'il déclamait, au point qu'il semblait vivre réellement l'histoire, qu'il la réalisait. Je n'oublierai jamais cette soirée. Bien des maisons de Providence étaient encore éclairées au gaz à l'époque, et le visage de Lovecraft, vu sous la lueur palpitante des lampes alors qu'il lisait à haute voix sa création ultra-fantaisiste, ce n'était vraiment pas de ce monde. C'était mémorable. J'ai eu du mal à m'endormir ce soir-là. Des très nombreux témoignages sur celui qui fut Howard Phillips Lovecraft que l'on peut trouver dans les deux volumes donc de cette biographie de S.T. Joshi qui paraît chez Actu SF, un chantier éditorial exceptionnel d'ailleurs dont vous avez été, je le répète, Christophe Thiel, le maître d'œuvre. Alors effectivement, il y a des biographies comme ça qui sont mythiques. Il y a la biographie de Léon Edel, de Henry James, une biographie, paraît-il, de 5 tomes qui est parue sur Goethe aux États-Unis. Il y a justement des entreprises biographiques qui sont celles de toute une vie. Et c'est celle de Joshi qui reste aujourd'hui une sorte de sacrifice de soi à l'égard de Lovecraft, véritablement. Il a passé toute sa vie, ou il continue à y passer toute sa vie?
Alors, il continue, mais il faut savoir que Joshi, outre le fait que c'est le spécialiste mondial de Lovecraft, il n'est pas que ça. Il s'est beaucoup intéressé à tous les auteurs du fantastique classique. Donc, par exemple, il est en train de travailler actuellement sur l'œuvre d'Arthur Machen, quelqu'un dont Pacôme aura peut-être des choses à nous dire. Je serais étonné du contraire.
Okay.
Et puis donc Joshi s'est aussi beaucoup penché sur toute la pensée et la philosophie athée aux États-Unis.
Et tout le lien avec Lovecraft.
Le courant de pensée, bien sûr, ça. On voit les liens qu'il peut y avoir avec Lovecraft, mais ce sont des liens qui s'en éloignent à un moment et qui peuvent s'en détacher.
Alors, ce personnage exceptionnel, ça fait partie de ces couples comme ça que l'histoire littéraire nous apporte très régulièrement. Quelle est un peu l'histoire de Joshi? Comment a-t-il rencontré Lovecraft et comment a-t-il organisé cette espèce d'activité lovecraftienne qui semble vraiment universelle, puisqu'il est partout? Je veux dire, il y a des associations, des groupes, des revues, des parutions, des fanzines, des tomes, c'est véritablement tout azimut.
Joshi a raconté son histoire. C'était un jeune immigrant indien aux États-Unis. Je crois qu'avec ses parents, ils sont arrivés en Pennsylvanie quand il était jeune adolescent. Et puis un jour, il a découvert une nouvelle de Lovecraft qui était L'Abomination de Dunwich, je crois bien, et qui l'a complètement frappé. Il a eu envie de tout lire. Il a lu tout ce qui était disponible à l'époque, toutes les éditions qu'on pouvait trouver. Et puis, ça l'a amené à aller faire ses études à l'Université Brown de Providence, et où là, il a pu se plonger directement dans le fond Lovecraft, qui se trouve à la bibliothèque de l'université, la bibliothèque John Hay, et dans lequel il y a les manuscrits de Lovecraft, un certain nombre d'imprimés, des documents d'époque, des documents de issus de ses amis également. Enfin bref, un fonds documentaire considérable, le plus considérable au monde autour de Lovecraft. Donc une fois son diplôme obtenu, eh bien il a commencé à écrire des choses, des essais autour de Lovecraft, aussi autour de la littérature fantastique en général. Il a fait un recueil d'essais qui s'appelle The Weird Tale. Donc voilà, c'est une expression qu'on retrouve beaucoup, puisque le terme de fantastique ou fantastique n'est pas extrêmement utilisé outre-Atlantique. Et Lovecraft lui-même parle de weird, c'est-à-dire weird, cette littérature de l'étrange, comme pourrait dire Freud, de l'inquiétante étrangeté. Il y a quelques rencontres comme ça intéressantes. Et puis beaucoup d'essais autour de Lovecraft, de différents aspects. Il a coagulé un peu un groupe de gens autour de lui, avec des personnes comme David Schultz. Il y a eu des contacts avec Robert M. Price, qui est sur des positions parfois un peu différentes. Mais voilà, la rencontre produit des choses assez intéressantes. C'était une époque.
Alors, vous pouvez, dans oui. quelles années tout ça s'est passé?
Alors, tout ça se passe dans les années, en gros, les années 80-90. Une époque où il y a à la fois un fanzina lovecraftien, avec justement des choses comme Crypt of Cthulhu, animé par Robert Price, qui publie beaucoup de fiction, on pourrait dire de fanfiction, mais des fois ça va un petit peu au-delà de ça, c'est un petit peu meilleur quand même. Et puis également des essais avec les Lovecraft Studies animés par Joshi également. Donc où là on a des gens de très haut niveau, des gens comme Marie Kanda, comme Mozig, etc. qui commencent à voilà dire que Mozig étant été un des premiers à pratiquer l'érudition lovecraftienne à un haut niveau dans les années 70.
Justement, c'est la question que je veux vous poser, c'est que bon, Lovecraft meurt en 1937, il a autour de lui tout un cercle amical qui devient un cercle de disciples, se crée une sorte de véritable... Lovecraft devient genre littéraire, on peut le dire. Et donc, quand Joshi arrive, il y a déjà énormément de choses qui ont été faites. Je veux dire, le personnage n'est pas en friche. Le personnage est, au contraire, l'objet d'une véritable...
D'un culte,
en tout cas, c'est un département littéraire à lui tout seul, Lovecraft.
Alors, au moment où Joshi commence ses travaux, ça aurait été une erreur de considérer que tout était fait. Puisque, d'une part, sur les textes publiés, on en était encore à des versions dont certaines étaient reprises des versions publiées dans les magazines. Donc, bourrées d'erreurs, d'erreurs d'interprétation, de l'écriture de Lovecraft qui n'était pas toujours lisible, de ses dactylographies où il y avait parfois des coquilles, sans parler des coupures pratiquées tout simplement par les éditeurs de magazines. Et puis au niveau biographique, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait la biographie de Lions Pride de Camp.
Absolument.
Qui a inspiré Joshi pour son travail.
Traduit en français chez Néo,
tout à fait. Donc un livre qu'on est content d'avoir sur ses rayonnages quand on l'a, mais quand on l'ouvre, on est un petit peu moins content parce qu'on trouve des appréciations parfois qui vont au-delà du jugement de valeur. Et on voit De Camp qui engueule Lovecraft de ne pas avoir écrit davantage au lieu de voyager, de ne pas avoir fait plus d'efforts pour se trouver un travail rémunérateur, enfin une attitude parfois un peu cavalière.
Pas comme tellement.
Alors, je me souviens en tout cas pour avoir un de mes meilleurs amis, Fabrice Petitjean, qui avait fait une thèse sur Lovecraft dans les années 90. Joshi était déjà la référence à ce moment-là, et tout le monde pointait vers lui quoi, et vers son autorité. Ce qui se comprend quand on voit, pour moi Joshi c'était juste un nom fantôme,
hein, oui, absolument.
Pendant des années et des années, c'est genre si Joshi l'a dit alors je me taire. C'était un peu ça quoi. Et alors arrive quand même on comprend très bien quand on voit la biographie monumentale qui est réalisée, qui c'est sûr était un truc comme peu d'auteurs ont eu dans leur vie quoi, hein, dans leur mort aussi. Je suis bête, il n'était pas vivant quand on l'a fait, mais qui est monumental, qui passe par à peu près tout et qui surtout rentre dans des détails qui sont des détails presque parfois quand on connaît pas Lovecraft quand on connaît pas bien Lovecraft, qui semblent des insignifiants, mais qui pour les amateurs de Lovecraft sont des clés très très importantes.
Effectivement, on a il y a une recherche de contexte qui est considérable, de contexte d'éléments historiques qui est très importante, au point que on a été obligé de rajouter un certain nombre de notes de bas de page, parce qu'il y a beaucoup d'allusions qui, pour le lecteur français, peuvent être un peu obscures. Et puis, il y a le fait que Lovecraft a documenté sa vie au jour le jour,
voilà,
à travers
on va en parler,
toute la correspondance qu'il a faite à ses amis, à sa famille, donc principalement ses deux tantes, dont il était très proche. Et on le voit raconter que, voilà, hier, il est allé à tel endroit avec tel ami, ils ont mangé telle chose. On sait quel jour il allait visiter telle ville et quel tableau il a vu dans quel musée. Donc, pour un biographe, c'est un rêve. Alors après, il faut avoir la volonté d'approcher tout ça avec objectivité.
On va en parler parce que toute la question est là. Parce que d'autant qu'en France, les deux volumes qui font près de 1300 pages, donc de Joshi, sont parus en 2013. Il a fallu 6 ans pour qu'il traverse l'Atlantique, ce qui est pas énorme quand on voit la lenteur de certaines traductions en français. D'autant que nous, en France, on a quand même traversé différents moments dans l'histoire de la connaissance de Lovecraft. Il y a d'abord eu, bien évidemment, après-guerre, Powell, c'est Bergier, Le Matin des Magiciens, la revue Planète, qui a vraiment intronisé Lovecraft comme géant du fantastique. Le Cahier de Lerne est arrivé là-dessus, donc là aussi un grand moment. La petite étude de Maurice Lévy, qu'on a tous lu en 10-18, qui a été aussi un passage nécessaire. Néo a donné la biographie de Léon Sprague de Caen. Et puis, ça, c'était encore une période, qu'on pourrait dire, un peu mythique. On baignait encore là dans un Lovecraft légendaire. Je me souviens, cette émission de 83, j'ai été accueilli pour présenter mon projet par un monsieur qui avait écrit parmi les premiers articles juste après-guerre sur Lovecraft. Donc on était encore, il m'a dit, ah mais moi c'était la légende, le mythe, on est encore là-dedans. Ensuite sont arrivés Michel Meurger et Joseph Alterac qui eux ont commencé à, je dirais, à faire une archéologie beaucoup plus précise, textuelle.
Alors les textes, les études de Merger, c'est assez dommage que maintenant elles soient confinées à des choses qui sont un petit peu difficiles à trouver, qui sont les cahiers d'études lovecraftiennes parus chez Ancrage. On peut saluer Alain Fuselier, qui était derrière tout ça, et le très beau boulot aussi bien sur la présentation que sur le contenu qui a été fait. Mais tous ces essais de Merger mériteraient d'être rassemblés, republiés en volume, parce que c'est vraiment... c'est d'une profondeur, c'est formidable, quoi.
Oui, donc ça, si vous les trouvez, lisez-les, parce que ces publications comptent énormément dans l'histoire française de Lovecraft. Et puis donc récemment, un nouveau chantier de traduction, François Bon s'y est mis.
Oui.
Entamé un travail assez long de longue haleine sur Lovecraft, David Camus.
Voilà, là, on a un point commun entre ces deux personnes, qui est la volonté d'aller se replonger dans l'univers de Lovecraft, c'est-à-dire d'aller faire un séjour à Providence, d'être en plein milieu de ce décor. Et moi-même, qui suis allé m'y promener, je sais que quand on est au milieu de ces rues pavées de briques, ces petits lampadaires, ces vieilles maisons, on regarde autour de soi et on se dit mais j'y suis, quoi, c'est ça, c'est exactement ça, je suis dans le décor de telle et telle histoire, et c'est effectivement assez extraordinaire. Alors David Camus, qui a raconté sur Instagram le vécu de son séjour à Providence, a dit que il avait été ravi d'aller y séjourner, mais que ça lui avait fait une impression bizarre, mitigée, comme d'une ville un peu malade, voire mourante. Bon, après, c'est la subjectivité, oui, c'est vrai, ça résonne assez bien avec certaines choses qui sont dans l'œuvre de Lovecraft.
Oui, c'est pas non plus l'univers le plus happy au monde, quoi. C'est pas...
Également aux éditions Bragelonne, des nouvelles traductions.
Oui, alors il y a eu Bragelonne, et puis donc il y a le gros projet de David Camus qui paraîtra chez Mnemos. Alors les dates sont repoussées, maintenant on en est à mars 2020, je crois, parce que il y a beaucoup
il y a déjà eu un énorme coffret Clark Ashton Smith, qui était un disciple et ami
magnifique
de Lovecraft. Donc
il y a véritablement Smith aussi,
depuis 60 ans la France travaille énormément à approfondir et à connaître tout ce milieu lovecraftien et péri-lovecraftien. Alors vous, en ce qui vous concerne, Christophe Thiel, comment s'est mis en marche l'histoire de cette traduction, l'histoire de ce chantier traductorial, et avec qui l'avez-vous mené à bien ?
Je crois que l'origine de l'histoire, c'est le petit bouquin que nous avons ici, qui est le guide Lovecraft, qui est paru
vous avez signé,
sous
ma signature,
qui est vraiment chez ActuFF,
ce qu'il faut lire livre. Si on veut s'initier à Lovecraft.
Voilà, pour les débutants, guide Lovecraft, absolument indispensable.
Donc, je ne disais pas ça pour faire une auto-pub, mais uniquement
pour
signaler comment ActuFF, bon, qui me connaissait, je connais bien Jérôme Vincent depuis un certain temps, mais comment on en est venu à me confier ce chantier. En gros, le choix qu'on m'a donné, c'est bon, est-ce que tu veux tout traduire ou est-ce que tu veux diriger le truc. Je me suis dit que quand même, tout ça fait par une seule personne, ça faisait beaucoup, d'autant plus qu'il existe une vie en dehors de Lovecraft, il faut quand même le dire. Donc j'ai préféré avoir une position un peu de grand Manitou au-dessus de tout ça, et ce qui m'a donné l'occasion de recruter une très belle équipe de 10 traducteurs et traductrices. Alors on va parler un petit peu de tous ces gens-là. Tous ces gens-là, donc je vais commencer par mon camarade Thomas Beauduret, qui est la deuxième moitié de Malpertuis, qui est quelqu'un qui est dans la traduction depuis pas mal d'années, qui est un grand connaisseur en polar, et en particulier il a fait le chapitre où il est question de Lovecraft et des dime novels, et de toute cette presse populaire. Donc il a ajouté des notes de bas de page de son cru. Nous avons également Anaïs Guénard, qui est une très bonne traductrice aussi. Nous avons Jacques Fuentealba, que j'ai croisé d'ailleurs, hasard, synchronicité des choses, que j'ai croisé au RER Invalide au moment où je m'y suis un peu perdu tout à l'heure. Et qui est non seulement un traducteur de l'anglais et de l'espagnol vers le français, mais qui est également un auteur de micro-nouvelles, très appréciable. Il y a Maxime Ledin, qui a été un des traducteurs du coffret Bragelonne, justement. Il y a Arnaud Mounier-Lompré, dont je tiens à rappeler qu'il a été le premier à nous donner une version correctement traduite de La quête onirique de Kadat l'Inconnu, c'était en 96. Avant lui, on se reposait encore sur cette version que je vois devant Paco Mtielman, qui est la version 10-18 dans Démons et Merveilles, et dans laquelle on traduit par exemple le mot symbole par des cymbales, un coup de cymbale est traduit par des symboles.
Un coup de symbole.
Voilà, un coup de symbole, exactement. Et où on dit que Kadat est une ville, alors qu'en fait c'est un lieu géographique qui n'est pas une ville. Mais donc voilà, grâce à Arnaud Mounier-Lompré, nous avons eu une version bien traduite, élégamment traduite pour la première fois de cette très belle nouvelle. Il y a également un jeune couple, Hermine Aymon et Erwan DeVos, qui travaillent ensemble sur la traduction. Qui est-ce que j'ai oublié ? Pierre-Paul Durastanti, qui est un vieux vieille,
pas des moindres.
Qui est un traducteur
de
très bon niveau.
Bédial.
Alex Nikolavitch, qui est également scénariste de BD. en dehors de son boulot de traduction, est spécialiste des comics et qui a scénarisé une très belle BD que je recommande à tous les Lovecraftiens, qui est une biographie qui s'appelle Lovecraft, celui qui écrivait dans les ténèbres, paru chez 21G. Alors... Et dessiné, il faut préciser, pardon, oui. Dessiné par des dessinateurs australiens qui étaient des... Argentin, qui était des élèves d'Alberto Breccia.
Ah oui, c'est la meilleure ouverture possible à Lovecraft. On en parlera d'ailleurs dans quelques semaines de Lovecraft et de la bande dessinée. Et une escouade, une cohorte lovecraftienne, Christophe Thiel, sous votre direction, qui connaissait parfaitement Lovecraft. Et pour traduire bien Joshi, il faut bien connaître Lovecraft pour arriver à apprécier, je dirais, les allusions.
Voilà. Je rajouterai la personne que j'ai oubliée, Florence Delivy, qui est également une traductrice de l'équipe. Alors, il faut bien connaître Lovecraft et on est obligé, parce qu'en fait, dans ce livre, il y a beaucoup de citations de Lovecraft. Alors, vous allez me dire, c'est facile. On va chercher le texte original, on le recopie, le texte tel qu'il a été publié en français. Donc, qu'est-ce qu'on a comme édition de référence? Ben, on travaille encore avec l'édition bouquin, les trois gros volumes.
Qui a fait époque.
Qui a fait époque.
Je ne l'ai pas cité, mais c'est une date aussi.
Elle a ses imperfections. Maintenant, elle est encore ce qu'on a de plus costaud sous la main. Et puis, on complète avec les traductions faites par David Camus, les montagnes hallucinées, les contrées du rêve, etc., qui sont plus fraîches. Bon. Le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses signées Lovecraft, d'écrits de Lovecraft qui sont cités, qui sont déroulés dans cette bio et qui ne sont pas publiés en français. Il y a en particulier un certain nombre de lettres qui sont restées inédites. Donc là, il faut traduire le style de Lovecraft. Et là, on est sur un style qui n'est pas son style littéraire, dont on peut dire ce qu'on veut, mais qui est quand même un style littéraire. Là, on est sur un style de conversation ordinaire, courante, et avec une caractéristique très énervante de Lovecraft qui est sa pudeur. C'est-à-dire qu'il préfère enrober son discours dans des circonvolutions absolument impénétrables plutôt que de révéler ce qu'il a au fond du cœur et qui risque de l'exposer un peu trop. Même et surtout quand il écrit à ses proches, à ses tantes.
Dark Energy, un choix de Laurent Polleray pour notre playlist Lovecraftienne de ce soir à Mauvais Genre sur France Culture. Pas comme tellement est en transe. Des fois c'est broie comme le culu, des fois c'est tentacule. Alors, effectivement, on a évoqué les traducteurs, l'escouade de traducteurs qui a été mobilisée par Christophe Thiel pour venir à bout de ce travail. Deux volumes, rappelons-le, quand même pas loin de 1300 pages, pas d'index.
Si, il y a un index. Il y a un index à la fin, ouais.
D'accord.
C'est pas arrivé à la fin du deuxième volume.
Qui n'est peut-être pas absolument complet parce que c'est quand même un boulot assez considérable, mais enfin, c'est le mieux qu'on a pu, quoi.
Voilà. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec un monument pareil, de voir les matériaux que l'on a pour construire un travail littéraire de ce type, puisqu'il y a effectivement l'œuvre de Lovecraft. Alors, rappelons les dates, 1890-1937, oui. Une existence assez confinée, pendant voyage.
Disons confinée en dehors de toutes les périodes où il n'était pas chez lui, oui.
Voilà, donc...
c'est-à-dire beaucoup de voyages.
Providence, dans l'état de Rhode Island, New York,
Québec. Saint-Augustin en Floride, je crois, Charleston en Caroline du Sud, la Nouvelle-Orléans également,
voilà, qui l'a beaucoup aimé. Voyageur américain.
Grand voyageur avec des petits moyens.
Alors, ce qui est intéressant donc à la vision, c'est on voit à peu près à quoi on a affaire quand on écrit une biographie de Lovecraft. Il y a d'abord effectivement l'œuvre qui dépasse très largement, je dirais, le legs de conteur fantastique et de romancier fantastique de fantasy, pour toucher aussi bien tout ce milieu de la presse amateur, avec des dizaines d'interventions internes, on pourrait le dire, du milieu des journalistes amateurs américains, tout ce qu'il a pu écrire en matière de poésie, puisqu'il était dans sa jeunesse hanté par le 18e siècle anglais, des ouvrages de vulgarisation scientifique. Donc déjà, sur le plan de l'œuvre, du texte signé Lovecraft, on a affaire quand même à une... On découvre avec Joshi une masse beaucoup plus importante que ce à quoi on est traditionnellement habitué.
Oui, et là, on a encore à remercier et à féliciter Joshi pour la publication de tous ces textes. Par exemple, il y a les Collected Essays, qui sont, je crois, 5 volumes, qui sont tous ces essais qu'on n'a pas trop l'habitude de lire de Lovecraft, qui sont évidemment beaucoup de critiques littéraires et de réflexions sur l'art d'écrire du fantastique, qui est pour moi quelque chose de capital chez Lovecraft, mais également des petits essais sur les affaires amateurs, hein, cette espèce de milieu d'équivalent du fandom.
Donc, Joshi en parle énormément, c'est des associations rivales de journalistes amateurs qui étaient des gens qui de fanzine, on peut le dire, puisqu'ils étaient eux-mêmes l'auteur de leur propre publication.
La grande importance que ça a, c'est qu'on peut considérer que c'est ce qui a sauvé la vie de Lovecraft, c'est ce qui lui a permis de sortir d'une période dépressive qu'il a eue quand il était jeune, et qu'il a ouvert brusquement à une énorme quantité de contacts sociaux. C'est une des rares fois où il a commencé, alors qu'il était encore un jeune homme, il a commencé à quitter son foyer pour aller à des conventions, aller résider chez d'autres personnes et devenir un personnage public et social, en quelque sorte. Voilà, alors à part ça, on va trouver effectivement des essais. Il y a toutes ces publications scientifiques, puisque c'était un passionné d'astronomie. Il avait commencé, étant gamin, par s'intéresser à la chimie, et puis il a vite compris que la chimie, au bout d'un moment, ça touche à des choses un petit peu complexes, avec en particulier les nouvelles théories physico-chimiques qui commençaient à être un peu difficiles à comprendre pour lui. Donc, ce qui l'a vraiment frappé, c'est l'astronomie. On retrouve cette fascination pour l'astronomie dans sa fiction, avec à la fois un attachement à donner des précisions astronomiques qui sont précisément exact. Par exemple, s'il dit que tel jour la lune était pleine, on sait qu'il a vérifié sur un calendrier. Mais aussi, eh bien, cette espèce de silence des espaces infinis, hein, qui le
côté pascalien de Lovecraft.
Voilà. Ouais. Alors, on peut pas dire ça le terrorise, mais il joue sur la terreur que ça peut provoquer chez nous.
Pas continuellement.
Moi, l'impression que j'ai, et alors, c'est dit avec le plus grand respect et le plus grand amour, hein, parce que faut pas déconner avec ça. Mais c'est qu'il a un côté premier geek. C'est-à-dire qu'il y a plein de points de personnalité de Lovecraft qui annoncent complètement la personnalité du geek actuel. À part qu'il n'a pas la technologie, mais il passe énormément de temps à rédiger, ou à checker, pas ses mails, mais son courrier.
Il écrivait à la main, il avait une répugnance pour la machine à écrire.
Mais enfin, c'est comme un mec qui est tout le temps en train de checker ses mails. Il écrit tout le temps. Et il aime beaucoup les sucreries. donc c'est limite la junk food. C'est l'équivalent de la junk food. Il a pas une vie sexuelle extrêmement palpitante, et il a une vie, on va dire, sociale qui se crée essentiellement autour des goûts. Des goûts partagés. Et
tu oublies de préciser les chats aussi.
Et il y a les chats. Et oui, c'est vrai. C'est Lolcats. Il a son amour des Lolcats. Donc ça fait une espèce d'univers. C'est très étonnant de voir, comment dire. C'est pas si surprenant que Lovecraft soit si moderne aujourd'hui, puisque, la lecture de Lovecraft fonctionne autant aujourd'hui, puisqu'en fait, il a une personnalité. Si on enlève toute la question des opinions politiques, et encore après la question de savoir les geeks et la politique, et comment est-ce qu'on gère ces questions-là, c'est quelqu'un d'aujourd'hui, à ce niveau-là. C'est vraiment quelqu'un d'aujourd'hui.
Alors, effectivement, le sentiment d'un geek, Christophe Thiel, mais quand même d'un geek qui nous a laissé plusieurs milliers de lettres, certaines atteignant la taille de 100 pages. Donc, justement, dans votre petit livre, vous le signaliez que le fameuse légende du reclus de Providence, du grand initié qui vivait solitaire au milieu des grands arbres, à se livrer à des incantations mystérieuses, bon, c'est totalement chimérique et légendaire. En définitive, il y a une sociabilité de Lovecraft qui est permanente. Et le deuxième strat, on va dire, après ses écrits personnels, c'est sa correspondance. Alors là, c'est Voltaire est battu à plate couture.
un très gros volume de correspondances dont on ne connaît pas le volume exact, d'autant qu'il y en a une partie qui a été détruite, on le sait, par différents correspondants, ou qui a été perdue. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas exclure de voir un jour réapparaître des lettres perdues, on ne sait jamais. Mais il y en a d'autres, on sait qu'elles ont été détruites. Et donc,
notamment les lettres de Sonia Green, qui
les lettres, voilà,
fugacement qu'il a, Madame Lovecraft.
Voilà, qu'il a adressées à Sonia Green, et dont pour tirer un trait sur son passé, elle a décidé de les emmener un jour dans un champ et de les brûler. Et voilà, c'est dommage, mais bon, après tout, c'est sa vie à elle, et c'était son droit. Maintenant, oui, cette correspondance, on y trouve absolument de tout. Tous les sujets sont traités, de la politique, la société, l'économie, la philosophie, l'histoire ancienne, l'histoire moderne, l'actualité, bien entendu, et puis, bien entendu, une très grande place qui est donnée à l'écriture, à la littérature, au fantastique, aux conceptions du fantastique, à ce qu'il faut faire pour écrire du bon fantastique, etc. Et pourquoi les pulps, ce qu'on trouve dans les pulps n'est que du fantastique de bas étage, et tout un tas de réflexions autour de sujets littéraires.
Donc ça, c'est le deuxième stade, je dirais, de l'héritage écrit de Lovecraft. Ce qui reste après, c'est la formidable quantité de témoignages. Puis cette sociabilité, ces amitiés, ces relations, ces rencontres génèrent chacune des témoignages. Et le fait que le personnage devient mythique très rapidement après sa mort, enfin surtout après la Seconde Guerre mondiale, fait qu'on a une crue de témoignages. Tout le monde raconte ma minute avec Lovecraft, mes vacances avec Lovecraft, ma rencontre avec Lovecraft. Il y a véritablement un entourage comme ça autour de lui.
Oui, on voit qu'effectivement tout ça est utilisé dans la bio. Alors en particulier, Joffy parle d'un petit volume, enfin d'un volume considérable, qui a été édité par Peter Cannon, très bon auteur, et qui s'appelle Lovecraft Remembered, et qui est un recueil de témoignages de gens qui l'ont bien connu. Donc on va trouver, alors ça peut être des gens qui l'ont connu pendant des années, comme Alfred Galpin, ou ça peut être des personnes qui l'ont croisé une journée et qui donnent leur impression, voilà. Comme tu disais.
Loveman, Samuel Loveman, Galpin, Belknap Long,
il y a quand même des témoins privilégiés. Il y a également, bien entendu, le témoignage de Sonia Green, qui a toujours gardé une espèce de tendresse pour Lovecraft, même après que leur histoire ait tourné au vinaigre.
Manière qu'ont les témoignages de s'accumuler autour de lui, d'essayer de le décrire, d'essayer de cerner son mystère. C'était une espèce de figure complètement charismatique en creux, quoi, ou en tout cas une figure mystérieuse, un homme du secret. Ça rappelle beaucoup la façon dont on a traité Kafka, en fait. Ce qui m'a fait penser à ça, bon, c'est non seulement parce que vous savez, il y a ces recueils Kafka m'a dit, tous ces trucs-là, tous les recueils de témoignages autour de Kafka, où on essaie de comprendre. Ça m'a frappé, c'est au début de l'émission quand vous avez lu le passage où on décrit.
Une dame, Madame Eddy, je crois, qui a assisté à une lecture nocturne par Lovecraft d'un de ses contes et qui était fasciné par le.
Alors
la scène.
Kafka, on le décrit souvent en train d'être incapable d'aller jusqu'au bout de ses contes tellement il en riait. Mais l'idée de décrire l'auteur en train de lire ses textes, c'est-à-dire que même ça fait objet de texte et objet de fascination. Comment est-ce qu'il lisait lui-même ses textes? Et l'autre élément, et c'est là que j'aimerais faire un salut amical et plein d'amour à François Bon qui a édité le Commonplace Book, c'est aussi tous ces fragments. C'est que Lovecraft, c'est aussi plein de fragments d'histoire ou d'idées d'histoire, un peu comme Kafka ou comme Hawthorne aussi. Peut-être Hawthorne est aussi à rapprocher.
On a Melville pour parler d'Hawthorne.
Oui, exactement. Et on a les témoignages sur Hawthorne par Melville, tout absolument. À fait. C'est pas Hawthorne m'a dit, mais quoi, c'est pas loin, quoi. Et c'est des toutes petites choses comme ça. C'est des trucs comme ruines cyclopéennes d'avant le déluge sur une île isolée dans le Pacifique, centre souterrain d'un culte de sorcières à échelle de la planète. Et ça c'est une note. C'est que des petites idées d'horribles choses chuchotées dans les pages de Gauthier de Metz, 13e siècle. Voilà. Que des trucs comme ça, notés, pour comme des sujets. Et c'est assez extraordinaire de lire ça, le Commonplace Book.
Christophe Thiel.
Ben oui. Oui, c'est vraiment ce carnet de notes dans lequel il avait pris l'habitude de, à chaque fois qu'il faisait un rêve un peu marquant ou qu'il lisait quelque chose d'intéressant. Voilà, la notion de Commonplace Book, c'est une espèce de mode de prise de notes qui en fait remonte au 18e siècle anglais à peu près. Et beaucoup de gens en tenaient un, y compris des gens pas connus du tout. Donc ce sont maintenant des documents historiques qu'on a pour mieux connaître cette époque. Et dans laquelle on, en gros, l'idée centrale est de noter les citations qu'on a l'intention de réutiliser un jour ou des remarques, des réflexions personnelles d'une manière pas forcément ordonnée, ni chronologiquement, ni thématiquement, mais un peu en vrac, afin de pouvoir les exploiter plus tard. Et voilà donc ce Commonplace Book, qu'on a intitulé en français le livre de raison, mais c'est pas une très très bonne traduction de cette notion. Un livre de raison, c'est autre chose, les historiens comprendront. C'est effectivement une petite plongée dans tout ce fatras d'idées, c'est un peu le grenier de Lovecraft. Mmh. Quoi. On peut ouvrir des tiroirs et puis on peut trouver à quoi il a pensé en se réveillant de tels rêves un petit peu forts. Mmh. Et puis après, on a le rapprochement qui s'opère avec telle histoire ou tel poème. On reconnaît les liens. C'est amusant.
Alors, à partir de cette énorme masse de documents, qui est vraiment exceptionnelle pour un écrivain, Christophe Steele, comment Joshi a-t-il fonctionné? Parce que le problème est là, il y a certains auteurs, on manque de matériaux pour raconter leur vie, d'autres, on peut être victime de l'abondance. Alors là, comment est-il arrivé? Parce que, bon, moi, effectivement, la lecture patiente du volume, des deux volumes, fait que on suit Lovecraft, mais heure par heure, on a l'impression de l'accompagner dans l'escalier, dans la rue, de prendre le bus avec lui, d'être reçu chez ses deux tantes à Providence, de l'accompagner dans ses grandes dérades à New York. Il faut quand même arriver à gérer cette espèce de masse océanique d'événements.
Comme disait Paco, le côté multifacette de ces témoignages, le fait qu'ils viennent de plein de personnes différentes, qu'ils éclairent chacun un aspect, donne un éclairage commun qui a d'autant plus de relief. Bah déjà Joshi, il a commencé par une grande familiarité avec tout ça. Ça fait des années qu'il baigne dans
hiérarchiser tout ça,
dans les textes etc. et qu'il empile les analyses, et puis qu'il connaît très bien les analyses qui sont écrites par différents spécialistes qui sont ses proches, ses amis, et ou des gens qu'il publie. Donc après, oui, la hiérarchisation, bah elle est faite, on est dans une biographie, donc il y a un premier fil rouge qui est chronologique. Mmh. Après, à l'intérieur de la chronologie, on va avoir plusieurs chapitres qui vont porter sur la même période ou sur des périodes qui se recouvrent, mais qui vont être séparés thématiquement. Par exemple, il va y avoir un chapitre qui va parler davantage de ses activités amateurs et un autre davantage de sa pratique de la poésie à telle période. Mmh. Et puis, il y aura un autre chapitre plus loin qui parlera de sa pratique de la poésie à une époque plus tardive et qui tirera les contrastes, les parallèles entre les deux, montrer ses évolutions. Une chose que je tiens toujours à rappeler, c'est qu'on dit Lovecraft est ceci, Lovecraft est cela. Lovecraft est avant tout, mais c'est une extrême banalité ce que je vais dire, c'est avant tout, c'est un être en devenir. Son devenir à lui s'est interrompu à 46 ans, mais c'est avant tout quelqu'un qui a évolué dans le temps, qui a passé son temps à apprendre, à lire, à découvrir, et qui avait une boulimie de ça. Un des gens qui l'ont connu parle de boulimie intellectuelle. Et donc, on peut pas le fixer d'une certaine manière, on peut éventuellement trouver des points communs entre les débuts et la fin de sa vie, mais on trouve surtout des évolutions.
Alors, ces deux tomes extraordinaires de la biographie de Lovecraft par J.T. St. Joshi, donc que vous avez dirigé, Christophe Steele, aux éditions ActuSF. Le livre s'appelle d'ailleurs « Je suis Providence », identité entre l'homme et son lieu. Qu'est-ce qu'elle a apporté, donc, Pacôme, à votre connaissance et à votre réflexion sur Lovecraft?
La biographie de Joshi, comme le livre d'ailleurs de Christophe Steele, le guide Lovecraft, mais aussi, à l'inverse, et dans l'autre camp, les textes des, on va dire, Lovecraftiens, gaullistes, transcendantaux, délirants, de Jacques Bergier à Jean Robin, dans le livre H.P. Lovecraft et le secret des adorateurs du serpent, montrent en fait que le rapport qu'on peut avoir avec Lovecraft est un rapport qui est aussi clivé que ce qu'il peut y avoir entre, visiblement, pas seulement le rapport entre sa vie et son œuvre, entre sa vie d'homme rationaliste et son œuvre imaginative, mais de ses personnages. C'est-à-dire que Lovecraft, pour moi, ressemble à un personnage de Lovecraft. C'est-à-dire qu'il a la volonté de continuer à s'établir dans un univers raisonnable, civilisé, avec une continuité qui date plus ou moins du XVIIIe siècle, enfin grosso modo homme du XVIIIe siècle Lovecraft, homme de la civilisation des Lumières et du rationnel, dans un monde qui est en train de s'effondrer intégralement, dans un monde qui, grosso modo, où la civilisation telle que l'humain l'a cru possible à partir des Lumières ou de la Renaissance va être balayée par toutes les catastrophes et les catastrophes. Si vous voulez, j'ai fait l'expérience. J'ai pas voulu le commenter plus que ça. J'ai mis sur mon Facebook le passage de l'ouverture de Nyarlathotep ce matin. C'était parce que je le trouvais incroyable. Je ne me souviens pas clairement quand tout a commencé, mais c'était il y a des mois. La tension générale était horrible. À une période de bouleversements politiques et sociaux, vint s'ajouter la crainte bizarre et obscure d'un abominable danger physique répandu partout, menaçant tout, comme on ne peut en imaginer que dans les plus atroces fantasmes nocturnes. Je me souviens que les gens marchaient, le visage blême et préoccupé, et chuchotaient des mises en garde et des prophéties que nul n'osait consciemment répéter ou s'avouait à lui-même avoir entendues. Je vais vite sur la question que je voulais montrer. L'enchaînement des saisons connut des altérations démoniaques, la chaleur de l'automne persista d'effrayante façon, et chacun sentit que la terre et peut-être l'univers avaient échappé au contrôle des dieux ou des forces pour passer à celui d'autres dieux, d'autres forces qui restaient ignorées. Et c'est alors que Nyarlathotep a surgi. Mais le truc, c'est que cette description, je l'ai posée comme ça. Évidemment, les gens engagés ont dit, c'est aujourd'hui. Ils nous parlent d'aujourd'hui. Il a dit, bien sûr, il a même vu le réchauffement climatique. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans un univers visionnaire. L'univers visionnaire, c'est très particulier. C'est-à-dire que là, l'auteur, d'une certaine façon, il lutte contre la puissance de son imaginaire. L'imaginaire lui-même est dévorant. Pourquoi? Parce que l'imaginaire le rappelle à la toute petite chose qu'est l'être humain. Et c'est ça l'univers de Lovecraft. C'est ça, je crois, à mon sens, je parle sous le contrôle de Christophe Thiel, qui pourra me donner un petit coup sur la tête si je me suis gouré, et à François Angelier, qui a lu Lovecraft quand j'étais pas né.
C'est vrai.
Mais j'ai l'impression que ce qu'a inventé Lovecraft, c'est un univers où l'humanité est l'exception. Et le fantastique ou l'horreur est la règle. C'est-à-dire, on vit dans un îlot d'ignorance.
Mais d'ignorance, c'est ce que lui-même a écrit.
Et voilà, que l'homme a créé, il imagine qu'il peut encore exister là-dedans, alors qu'en réalité, la règle, c'est le chaos, ces espèces de monstres du chaos, ces espèces de formes effrayantes qui finiront par reprendre le dessus. Et donc, notre petite balade, là, sur Terre, est un épiphénomène de la réalité cosmique.
Christophe, c'est au début de l'appel de Cthulhu, qu'il dit quelque chose comme « Nous vivons sur un îlot de placide ignorance, voilà, et nous n'avons jamais été censés voyager bien loin. »
C'est ça.
Voilà, enfin, je cite de mémoire. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, dans Lovecraft, poussé par sa familiarité précoce avec l'astronomie, avec les sciences, etc., et avec une image de la petite humanité complètement opposée à ce qu'on enseigne dans la classe, enfin dans cette espèce d'aristocratie bourgeoise américaine dans laquelle il est né, le Yankee de Nouvelle-Angleterre, puisqu'il a vécu dans la pauvreté, mais il est né quand même dans une famille très bourgeoise à l'origine, qui a eu des problèmes à un moment, et où aller à l'église fait partie de la vie, et donc entendre des sermons sur la grandeur de l'humanité, etc. Non, lui, ce qu'il voit, c'est une petite planète au milieu d'un immense univers. La place de l'homme, bah, c'est pas grand-chose. Un souffle cosmique peut le balayer. Et il donne à tout ça des visages effrayants et avec plein de tentacules dessus, qui vont faire appel à des peurs profondément ancrées au fond de nos petites psychés.
Avec quand même une surévaluation de tout ce qui était la rationalité, le paganisme, parce que quand même, dans cette nation biblique et démocratique et multiculturelle et multiethnique que sont les États-Unis, Lovecraft aura plaidé pour un rationalisme éclairé, un paganisme sans faille et une hiérarchie des races et des classes absolument indéfectible.
Alors, ceci pas vraiment d'accord avec le mot paganisme, à part si tu entends par là son adoration pour la Rome, plus que la Grèce, la Rome antique.
Oui, voilà.
Et sa culture. Mettons. Voilà. Donc, il raconte effectivement que quand il était gamin, il a vu de ses yeux vus des nymphes qui dansaient dans les bois. Il n'en tire pas de conclusion particulière. Il sait très bien que ce qu'il a vu était une illusion. La conclusion qu'il en tire, c'est que quand il entend un chrétien lui dire qu'il a ressenti la présence de son Dieu, il sait à quoi s'en tenir. Maintenant, voilà, qualifier Lovecraft de païen, c'est tout à fait exagéré.
Il réfute l'idée du péché, par contre, Lovecraft.
Il réfute absolument l'idée du péché. Il y a un très beau passage que j'aurais sans doute pas le temps de lire, mais dans lequel il exécute Arthur Machen, écrivain qu'il admire beaucoup, en disant que le problème, la faiblesse de Machen, c'est qu'il est fasciné par l'idée du péché, et c'est normal parce qu'il est catholique. Mais quand on a plus évolué que ça, quand on a dépassé cette étape un peu primitive de l'esprit humain, on sait que finalement, une faute morale, c'est jamais plus terrible qu'une migraine ou un ulcère au gros orteil. Ça n'a pas de signification cosmique.
Oui, mais voilà, à ça qu'il faut quand même, pour nuancer sa vision du monde, que son univers imaginatif lui rappelle toujours que quand bien même il a cette impression de supériorité intellectuelle liée à son espèce de rationalisme occidental, l'univers cosmique va le balayer quand même. Il y a un côté presque, excusez-moi d'utiliser des termes presque un peu trop chic à la mode, mais un côté collapsologue chez Lovecraft. Vous voyez ce que je veux dire? Mm-hmm. Le côté apocalypse sans royaume. Vous voyez? Il y a ce truc-là. Il y a une exception à ça quand même. Il y a une exception à cette espèce de vision un peu terrible et infernale, machin. C'est évidemment les récits de Randolph Carter.
Mais ça rentre dedans.
Mais ça rentre dedans, tout à fait. C'est-à-dire que, et c'est là où on arrive au moment où ça devient, enfin comment dire, où on touche au sublime. C'est là où je suis d'accord avec Joshi, il a raison de le préciser, l'espèce d'a priori devenu d'Edmund Wilson comme quoi Lovecraft est un mauvais styliste ou écrit, c'est de la connerie. Ce qui est une chose qui a été répétée et répétée. Moi, j'entendais encore ça quand j'avais 20 ans.
On l'entend encore.
Ouais. C'est sublime. La quête onirique de Kadath l'inconnu, c'est un moment sublime de poésie.
La rencontre donc du sublime Lovecraftien grâce aux deux tomes de la biographie de S.T. Joshi, paru aux éditions ActuSF. On termine l'émission, bien sûr, avec Christophe Beer.
Julien Richard Thompson a entamé une abondante filmographie à 21 ans sous le pseudonyme de Richard J. Thompson au milieu des années 1990. Avec des budgets faméliques de 30 000 francs, des copains et le soutien de Jean-Pierre Putters, fondateur de Mad Movies, il tourne des séries Z pleines d'énergie, seulement exploitées en VHS et qu'il soupçonne lui valoir aujourd'hui sa mauvaise réputation. Peu rancunier, même plutôt fier de ce passé débrouillard, il auto-édite deux livres sur deux de ses films emblématiques. Sorti en 1996, Time Démon repose sur un postulat classique mais délirant. Hitler n'est pas mort. Il est juste sénile, parvenant toutefois à convaincre un commando SS et une secte d'Amazones en cuir noir de l'avènement d'un prochain Reich. Mais il lui faut se régénérer grâce à un talisman magique qui procure la vie éternelle. Pour récupérer cette antiquité, rien de plus simple qu'une machine à remonter le temps. Un acteur raté mais séducteur, descendant d'un conquistador espagnol, sauvera-t-il la planète du grabataire Führer ? Un an plus tard, Jurassic Trash, d'abord titré « Terror of Prehistoric Bloody Creature from Space », est son chef-d'œuvre. Un jeune savant maboule, isolé dans le Haut-Vaucluse, élève un dinosaure aquatique. Un camp de jolis nudistes est bientôt décimé. Un chef scout intégriste, y voyant l'esprit du démon, part en croisade avec ses troupes. Un archéologue débarque armé de deux accortes assistantes. Le préfet de région à la promotion du tourisme local se désespère. Un mafieux envisage un dinosaure land et le chaos scénaristique sonne l'alerte rouge. Le vidéaste a compris que la carte parodique et sexy doit être poussée au maximum. Ce n'est plus la trauma qu'il invoque, mais la débilité des meilleures comédies désolantes françaises et l'hystérie libidinale des sexy comédies italiennes. Découvrant que son patronyme est celui du chef scout, Philippe de Villiers intente un procès pour préjudice. Un arrangement est trouvé. Chaque fois que son nom est prononcé, un bip le rend inaudible, ajoutant un peu plus de folie à ce jeu de massacre filmé en HI8. amateur déphasé, journaliste complice et vedette du porno s'y ébroue, comme Elodie Chéry et Coralie Trinity, aux prises en plan rapproché avec un bébé dinosaure fabriqué dans une chaussette recouverte de latex vert et un dinosaure adulte fait d'une armature en bouteille de jus de fruits conçue par Antoine Cervero, le Willis O'Brien des désargentés de la vidéo, déjà auteur des monstres du Dinosaur from the Deep de Norbert Moutier. Sans forfanterie, Julien Richard Thompson fait revivre une jeunesse frondeuse qui lisait Starfix et Mad Movies, bricolait des fanzines d'horreur et découvrait le bis italien dans les vidéoclubs.
Merci Christophe Beer, merci Christophe Thiel d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Alors c'est très simple, chers amis auditeurs, auditrices, vous ne connaissez pas Lovecraft et vous voulez vous initier, vous vous précipitez sur le livre de Christophe Thiel, le guide Lovecraft, édition ActuSF. Autre cas de figure, vous connaissez Lovecraft et vous voulez vous noyer dans sa vie, son génie, découvrir ses multiples écrits, ses multiples relations et surtout sa vision du monde, eh bien vous vous ruez sur les deux extraordinaires volumes de S.T. Joshi aux éditions ActuSF, 1300 pages. Mais ça, je vous assure que le voyage en vaut la peine et vous connaîtrez après Lovecraft heure par heure, ce qui n'est pas rien. Je signale également aux éditions du Typhon, une jeune maison qui vient de se créer à Marseille et que nous saluons, la découverte de Elton Brody de Edgar Mittelholzer. On en reparlera à Mauvais Genre, un conteur guyanais très lovecraftien de ton. Et puis bien sûr, la saison de l'étrange à Brian Stableford, la saison 2, c'est le testament d'Eric Zahn, suivi du fils de Valdemar. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleré, Valérie Lavalard, Siam Boutata, Claire Martin Dugard, Céline Duchesnay, Paco Mtielman, Christophe Beer et François Angelier, vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine à Strasbourg avec Antoine Guillot et nous visiterons trois des plus formidables expositions consacrées à Blotch. Et d'ici là, bonne nuit à tous.